Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence avec moi-même, hein, José, hein, pour commencer par le meilleur. Puis Michel aussi, Jean-Mathias n'est pas là, donc on ne fait pas forcément l'émission qui était prévue, mais on fait autre chose encore mieux. Et puis Petra qui nous a rejoint. Donc aujourd'hui, on parle très très vite parce qu'on va chroniquer plein de bouquins au lieu d'un seul. Donc une bonne dizaine. Ça va être un morceau de musique et un livre. Donc de la littérature, du politique, plein de choses. Alors, ça a commencé par le morceau Brain Damage, On nous a volé notre futur. C'est le groupe de feu Roland C. Wagner, donc un auteur de SF français, pas que de SF, mais beaucoup de SF française. Il est mort en 2012, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Et ce bouquin, donc, dont je voulais vous parler très rapidement, on va faire que ça, hein, que des petits teasers très rapides, ça s'appelle Rêve de gloire. Rêve de gloire, et ben c'est une uchronie où De Gaulle aurait été tué au Petit Clamart à l'attentat. Et donc, la guerre d'Algérie n'est pas celle qu'on connaît. Mais Alger reste française, tandis que l'Algérie gagne son indépendance. Donc on se retrouve avec plusieurs statuts particuliers. Ça, c'est la toile de fond historique qui est hyper présente. Mais on suit surtout au départ un collectionneur de disques de musique psyché, comme était Roland C. Wagner. Et ce fan de rock psyché part à la recherche d'un 45 tours mythique, et à partir de là il traverse toute l'histoire de la guerre d'Algérie, du rapport des colons français, de l'armée, des putschistes, etc. Ça parle beaucoup de barbouze, et tout ça au milieu de la gloire, et la gloire c'est le surnom du LSD. Donc on se retrouve avec des hippies pour qui Alger devient le centre du monde du LSD, etc. Donc c'est un bouquin, je vous en parle juste très vite fait, qui fait une 800aine de pages. C'est juste incroyable. C'est de plein de points de vue différents. Ça reste une lecture très très fluide, avec plein de personnages. C'est pas forcément en ordre chronologique, mais ça se lit très très bien. Donc Roland C. Wagner, Rêve de gloire. Et puis là, un petit morceau de musique. Et puis ça sera Michel qui vous parlera du prochain.
Cette boîte de petits pois négatifs pour l'assiette de riz. Moi je peux bouffer du riz.
Je finirai pas mon assiette, ni même un sandwich au riz. Je tape ta blanquette de gros, je veux bouffer d'un resto.
Bouffer du riz,
bouffer du riz,
bouffer, 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 bouffer
du riz,
bouffer du riz.
Ça vaut pas la peine d'insister, tu commences vraiment à faire chier. Emballe-moi donc cette courge,
moi je veux bouffer du bourge.
En brochette ou en lanterne, et en jambon ou en tartare, et peu importe la manière,
je bouffais ces bâtards. Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour son marathon livresque avec donc Michel, José et Petra. C'est Michel qui vous parle, et je voulais vous parler, vous faire un petit teaser rapide sur un livre de Thomas Frank, alors il est chez Agone, qui s'intitule Pourquoi les riches votent à gauche. Précédemment, enfin, il y a une dizaine d'années, Thomas Frank avait publié un autre bouquin chez le même éditeur Agone qui s'intitulait Pourquoi les pauvres votent à droite, avec l'idée que les gens de droite les attiraient avec des discours rassurants sur l'ordre moral, alors que même que ces mêmes gens de droite favorisaient le désordre économique qui faisait qu'on craignait pour la moralité. Et donc là, c'est l'inverse, c'est pourquoi les riches votent à gauche. Alors au début, quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit que dans le titre, il y avait au moins un des deux mots qui était faux, c'est-à-dire que soit ils n'étaient pas riches, soit c'était pas pour la gauche. Bon, ici, en fait, ça explique pourquoi, dans le système américain, les démocrates ont finalement complètement abandonné la classe ouvrière au profit, finalement, d'une espèce d'économie de l'intelligence, de l'entrepreneuriat, fondée sur une forme de méritocratie absolue. Et en gros, à partir du moment où les gens ont accédé aux bénéfices auxquels ils ont droit grâce à leur mérite universitaire, il n'y a plus aucun problème. Et ce qui fait que tous les gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont par conséquent, pour nos charmants dirigeants, méprisables, ne sont plus entendus. Et puis après tout, s'ils ont la place qu'ils occupent dans la société, c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à passer des diplômes. Et donc là, il y a vraiment l'idée. Alors c'est un bouquin qui est centré essentiellement sur les États-Unis, mais qui, à mon sens, pourrait tout à fait s'appliquer à notre charmant Parti socialiste ou à Macron actuellement, avec l'idée que voilà, si vous avez fait des études, vous avez ce que vous méritez, c'est-à-dire beaucoup d'argent, et si vous n'avez pas fait d'études, vous avez ce que vous méritez, c'est-à-dire un boulot de merde et pas beaucoup d'argent, et tant pis pour vous. Et tout est très très bien dans ce glorieux monde néolibéral fondé sur le mérite universitaire.
C'est la vie.
C'est la vie, voilà. Donc, c'est un gros bouquin, mais assez facile à lire. Bon, si la politique aux États-Unis vous intéresse, c'est tout à fait lisible. Voilà.
Et c'est qui déjà?
Donc, c'est Thomas Frank. Pourquoi les riches votent à gauche?
Édité chez Agoun.
Chez Agoun encore.
Chez Agoun encore.
Sur Radio Libertaire 89.4. Donc là, on parle un peu vite parce que c'est le marathon du livre. On va essayer de vous présenter plein de livres avec un morceau qui correspond. Donc là, on a passé du Bessie Smith avec Far Away Blues, puisque c'est le blues qui vient de loin, pour vous parler d'un bouquin de Octavia E. Butler. Octavia Butler, donc c'est une auteure, autrice, écrivaine américaine, née en 47 en Californie. Donc noire américaine, c'est quand même très important là pour le thème du bouquin et pour le fait que, pour le point de vue en tout cas du bouquin. Donc bah, ça raconte, c'est un roman hein, d'abord, et d'un peu de fantastique historique. Puisque c'est Dana, qui est une femme noire, qui est avec un mec, Kevin, blanc. Ils sont mariés depuis peu de temps, et ils emménagent ensemble. Et là, un soir, alors qu'elle a 26 ans, elle perd connaissance, et elle se retrouve, l'héroïne, au temps de l'esclavage. Donc, elle se retrouve couverte de boue, et elle se retrouve esclavagisée, je ne sais pas comment on dit, mise en esclavage en tout cas, dans une... asservie, merci Michel... Mister vocabulaire, asservi donc dans une plantation du sud de coton. Et puis de temps en temps, elle se retrouve à nouveau dans le présent, où elle va essayer de raconter ce que c'est l'esclavage à son mec, mais pas seulement, parce qu'il y a son corps aussi qui parle, elle a été fouettée, etc. Puis de temps en temps, elle repart là-bas, elle revient, ce sont des allers-retours, où elle se fait des amitiés à la fois sur place, parfois ça dure très longtemps qu'elle reste sur place, parfois c'est très court. Et donc elle arrive à raconter un peu la vie d'une esclave dans les champs de coton du sud de l'Amérique, de manière très 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 crue, et avec à la fois le pendant actuel avec des gens qui ont du mal à réaliser ça. Donc c'est, pour moi, c'est un bouquin à lire et autour duquel discuter, parce que c'est pas forcément évident non plus les différentes choses qui peuvent être dites autour de l'esclavage dans les périodes où elle se retrouve de nos jours. Voilà, je passe très vite. Donc ça s'appelait « Lien de sang » par Octavia Butler. Allez, un petit morceau.
La radio de la Fédération anarchiste, la radio sans ni maître ni publicité, c'est Michel de Jeudi Noir qui vous parle. Pour vous présenter une de mes obsessions récurrentes, hein, comme vous savez, il y a No Means No et Heidegger le nazi. No Means No, c'est vachement mieux. Chut, Petra. Et ensuite, donc, c'est un livre de François Rastier édité au bord de l'eau. François Rastier avait publié un autre ouvrage il y a quelques temps, 2-3 ans, qui s'intitule Heidegger, Naufrage d'un prophète. Et là, c'est un autre livre, Heidegger, Messie antisémite, ce que révèlent les cahiers noirs. Donc ça, c'était dans la série « Il y en a marre que les gauchistes lisent des mecs d'extrême droite en spammant devant leur style », comme Junger, Carl Schmitt, Enco. Et donc, alors c'est un livre qui est un peu technique, c'est pas forcément très amical pour les débutants, mais il va montrer comment Heidegger finalement inscrit son discours antisémite nazi dans une structure philosophique messianique avec une grosse fascination pour l'apocalypse. Et il essaie de faire une lecture au présent de Heidegger, c'est-à-dire il essaie de voir comment ce type d'obsession apocalyptique, conspirationniste et autres a pu être réactualisé aujourd'hui, y compris d'ailleurs à l'extrême gauche. Dans certains cercles, et ça regorge de documents, de lectures. Vous pourrez apprendre entre autres choses. Or, c'est pas Rastier qui l'a dévoilé, hein. C'est Sidonie Kellerer, une chercheuse franco-allemande, que Heidegger avait participé à la commission pour la philosophie du droit jusqu'en 1942. Ça avait été et en gros, il siégeait avec Julius Streicher, avec Rosenberg, des types qui ont été pendus à Nuremberg, entre autres, et aussi sans doute peut-être avec Himmler. Je suis en 42, donc voilà. Heidegger n'était pas nazi, hein.
Nazi.
Voilà.
Ouais, mais sa philosophie non.
Et sa philosophie est aussi nazie.
Faut savoir faire la part des choses.
Voilà. Non, nous on fait pas la part des choses. Voilà, c'est un sale nazi. Donc lisez ce genre de bouquin. François Rastier, Messie antisémite, ce que révèlent les cahiers noirs. Voilà, c'est partiel de ma part, mais ça fait toujours plaisir.
Und wie steht es mit das Nichts? Was können wir sagen von das Nichts? Ist das Nichts gar ganz nichts? Oder gibt's da noch eine Nichtige eine Nichtigkeit? Ja, das Nichts, das Nichts!
Being is the truth, and if you ask me for
einzige richtige Waffe ist der Sozialismus.
1, 2, 3, 4!
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours la radio de la Fédération anarchiste. Et là, c'est Jeudi Noir qui se continue sur le marathon du livre. Donc, on a fait une petite inversion. J'ai fait une petite inversion de musique. Là, ce qu'on vient de passer, c'était le groupe Panic, un groupe allemand, avec Requiem pour Martin Heidegger. Donc, ça, c'était pour le bouquin qu'avait chroniqué Michel, Heidegger, métier antisémite. Et ce qu'il y avait juste avant, c'était pour le bouquin que je vais chroniquer maintenant, de Rudimentary Penny, un groupe anglais très connu, avec When Are You? When You Are a Martian Church. Quand vous êtes une église martienne, c'est ça. Puisque là, je vais vous proposer en bouquin Un Martien nommé Jésus de Philippe José Farmer. Philippe José Farmer, donc, c'est un auteur de SF américain qui aurait eu 100 ans à peu près aujourd'hui et qui a mis un peu des coups de pied dans la fourmilière SF très tôt en parlant de sexualité, de mixage des races ou même d'espèces galactiques, etc. Et là, il a fait un bouquin très drôle et assez profond. Sur des astronautes qui débarquent sur la planète Mars. Alors, c'est assez marrant, puisque c'est composé à la fois d'un chrétien, l'équipage, d'un juif, d'un musulman et d'un athée. Sauf que quand ils arrivent sur la planète Mars, la planète est complètement peuplée de vrais chrétiens. Mais en fait, les vrais chrétiens ont des kippas, ont les cheveux entortillés là, sur les côtés, etc., circoncis, etc. Donc, ils ont l'air de juifs orthodoxes, mais pour eux, ils sont chrétiens. Pourquoi ils sont chrétiens? Parce que Jésus vit avec eux. Et Jésus vit dans une sorte de boule disco au-dessus d'eux. Il est là présent, c'est un gars qui descend de temps en temps discuter avec, quoi. Pour eux, la religion est très, très concrète. Et donc, ils se retrouvent avec un juif, ils ne comprennent pas parce qu'il ne leur ressemble pas. Le gars se dit chrétien, mais en fait, il n'a pas de barbe, il n'a pas de papillote, voilà le mot que je cherche. Le musulman, ils savent même pas ce que c'est, puisque ça n'existait pas au moment où Jésus est arrivé sur Mars avec eux. Et puis alors un athée, n'en parlons pas. Donc c'est plein de discussions philosophico-burlesques à propos de la religion et de plein d'autres choses. Donc c'était Un Martien nommé Jésus par Philippe José Farmer. La suite tout de suite.
To magically poof away your black blackness. You ain't got black blackness, you
bonsoir. Alors c'est Petra Pied-de-Biche qui est dans Jeudi Noir avec José et Michel. Donc le morceau que vous venez d'entendre, c'était la rappeuse Ogechi avec son morceau Stuck at the Intersection. Voilà, qui était une bonne transition avec le livre que je vais vous présenter, qui s'appelle L'Intersection Einstein, qui a été écrit par Samuel Delany. Je ne sais plus trop en quelle année, mais je crois bien que c'est dans les années 70. Ah bah j'ai la date. En 1967, très exactement. Donc l'édition que je tiens est parue en France chez le Livre de Poche. Et donc, c'est un livre assez dur à résumer, surtout que personnellement, je déteste raconter les livres de façon à trop dévoiler l'intrigue. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est en même temps un roman qui pourrait être à l'intersection d'une histoire d'anticipation, d'un roman de science-fiction et d'un roman aussi de fantasy. Où la plupart des héros et les personnages principaux font partie d'une espèce plus ou moins humanoïde, avec des pouvoirs. Mais les notions de race et de genre sont complètement différentes de celles qu'on pourrait connaître maintenant, ou dans la plupart des livres de science-fiction. Et à ce niveau-là, ça rejoindrait un petit peu l'imaginaire de Ursula Le Guin. Et voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, c'est une aventure qui va mener le héros principal à questionner justement l'héritage reçu de leurs ancêtres, qui font qu'ils ont tous un petit peu des super pouvoirs dans cette espèce plutôt humanoïde. Donc, il va partir à la recherche, un peu en quête d'explications. Concernant ses origines et l'origine de tout le peuple dans lequel il vit, et l'origine de la planète dans laquelle ils vivent tous, qui a subi beaucoup de mutations. Voilà, voilà. Donc c'était L'Intersection Einstein de Samuel Delany. Lisez-le, c'est super!
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir qui se poursuit, donc avec ce petit marathon du livre. vous avez déjà parlé d'une bonne poignée de bouquins. Et là, on vient de passer un morceau qui est de In Eternam Valley, un groupe duo, puis trio, puis solo, qui a débuté dans les années 80 avec le morceau Dans ma maison. Je l'ai coupé au milieu parce que c'était un peu long et qu'on est, on est un peu speed. Mais Dans ma maison, c'était pour vous parler d'un bouquin qui m'a traumatisé dans mon enfance, dans ma préadolescence, qui s'appelle La maison au bout du monde, de William H. de Hock. Hodgson, c'est dur à dire, H-O-D-G-S-O-N, Hodgson, William Hope Hodgson. C'est un bouquin, j'ai eu beaucoup de temps à le retrouver en fait, parce que j'avais des images très précises des cauchemars que je faisais quand je l'ai lu, je sais pas, je devais avoir 12 ans, et emprunté à la bibliothèque de Saint-Denis, 9-3 en force. Et il y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver, après plein de recherches internet, ce bouquin. Et j'avais des images de porcs humains sortant d'un gouffre pour attaquer une maison isolée. Et en fait, en le relisant là maintenant, et j'ai un petit peu plus que 12 ans maintenant, je vais avoir à peu près 13 ans et demi, ça m'a foutu les mêmes jetons, quoi. C'est
affreux.
Et c'était un des bouquins préférés de Lovecraft quand même. C'est quand même une référence, quoi. C'est hallucinant, quoi. Un bouquin écrit en 1800, fin 19e, début 20e, je sais plus c'est quel, ça veut 1890 ou par là, 1880, je sais plus. Et voilà, et on se retrouve avec deux personnes qui se retrouvent, on ne sait plus pourquoi, dans une maison, et là, ils se retrouvent assiégés par des forces super obscures. Et ça part dans des voyages psychédéliques incroyables. Voilà, c'est plein d'images. Je ne peux pas trop en parler, mais franchement, si vous aimez l'univers de Lovecraft en plus barré, en plus psyché, je vous conseille La maison au bord du monde de William H. Hodgson. C'est sorti dans plein de collections différentes. Voilà, vous pouvez le trouver peut-être à droite à gauche. Voilà, après ça sera Michel qui vous parlera.
Putain, mais j'en ai marre de me faire chier assis sur ce muret à regarder les camions de tomates qui vont à Marmande. Depuis le temps que je glande avec ces connards de potes qui dans la vie ne veulent pas aller plus loin que Agen, je me dis que je devrais songer à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots, j'ai envie d'un truc moderne genre 2.0. Mais je vais pas aller non plus jusqu'à Bordeaux, je me perds tout le temps là-bas, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation, je vais livrer de la graille en vélo, révolution. Tout en restant à la maison. Alors feu, je vais direct au Décathlon de Agen en bagnole pour acheter un bitouine et des plans chevrotines pour la pause aussi, on sait jamais. Appli installée sur mon iPhone, le 7, ouais, que j'ai commandé sur Amazon. Moderne, avec cube isotherme, casque, support de téléphone et même un jersey. Je sais même pas ce que c'est. Ça y est, c'est parti, j'ai déjà un shift. Ha, tu sais pas ce que j'ai, un shift tocard. C'est moderne. Moderne. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dej. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dej. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'irai après la pêche. Bon, concrètement c'est vrai, c'est un peu loin. Mais je livre 4 pots de carbure, ça se conserve bien. Direction le 82, ouverture transrégionale vers le Tarn-et-Garonne, la garbure est gersoise, interaction, diversité, mondialisée. Valorisation du local, un peu comme une baston entre voisins à la buvette du pal. Pour rester en avance sur mon temps, c'est bien simple, je pédale vénère. Je vais de l'avant sans jamais me retourner, de toute façon ici, y'a rien derrière. Arrivé à l'Erac, je prends le virage, toujours en avance sur mon temps. Mais quand tu prends un virage en avance sur ton temps, en fait tu prends pas le virage, tu tournes avant. C'est prouvé mathématiquement. Je ramasse mon vélo, y'a pas de casse dans les pots, je me suis pas fait de bobo, tant mieux, je suis pas assuré. Moderne. Moderne. J'ai un shift à mon dèche, ça tient trop bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère à l'école fèche. J'ai un shift à mon dèche, ça tient trop bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère à l'école fèche. C'est moderne, mais putain, c'est long. J'ai déjà passé le pont de la 62. J'ai déjà passé une fois la Garonne. Pédale, pédale, pédale. putain, ça y est, j'aperçois la frontière. De l'autre côté, la magistère, super. D'autant que j'ai un 38 tonnes derrière. Le mec klaxonne, pinaille parce qu'il peut pas me dépasser. Mais s'il peut pas me dépasser, c'est justement parce qu'il y a du monde en face. Et qu'à droite, il y a le fossé. Il veut que je fasse quoi au juste? Que j'improvise une lévitation transcendantale à 6 mètres du sol en vélo? Cono. Putain, ça y est, le mec déboîte, il a réussi à passer. Mais ça le passe pas l'envie de klaxonner. Super. Encore plus super quand tu sais qu'on arrive dans un village limité à 50 à 20 mètres d'une zone 30. Je suis collé au derrière du gros cul que j'ai réussi à rattraper. Et c'est pas des vapeurs de carbure que je respire. Mais que le transport routier c'est moderne, alors je patiente et je respecte. Putain. J'ai un shift à mon tel, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais quand je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à mon tel, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais quand je...
Michel, donc pour Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio moderne. Sans Dieu, ni maître, ni publicité, la radio moderne, et donc 2.0 tout ça. Vous retrouvez d'ailleurs l'émission sur Gurdulu, Archives, Jeudi Noir, hein, comme d'habitude. Voilà, et là je voulais vous faire une petite présentation ultra rapide d'un livre publié récemment chez L'Échappé, dans la collection Versus. C'est un livre qui s'intitule, un livre de Jeffrey Herf, s'intitule « Le modernisme réactionnaire, haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme ». Comme vous voyez, j'ai des intérêts qui sont très très variés, et avec No Means No. Et donc, c'est un livre qui va essayer d'expliquer... Bon, en gros, aujourd'hui, vous avez des gens super intelligents, comme un peu Onfray, comme un peu BHL, tout ça, enfin des grosses tronches quoi, qui passent à la télé et qui disent des trucs modernes. Voilà. Merci Petra. Et donc, eux, ils vont vous expliquer qu'en fait, Hitler, il a été inspiré par Kant ou par Voltaire, vous voyez, je caricature vaguement. Mais c'est un petit peu ça, c'est l'idée que le nazisme serait issu d'un excès de rationalisme. Et en fait, bon, tous les gens qui ont lu un livre d'histoire, mettons, sur la période, maximum, voire Wikipédia, savent que les nazis détestaient le rationalisme. Et que justement ils ont viré des gens d'Allemagne parce que c'était des rationalistes et qu'ils privilégiaient les forces de la vie, du sol, du sang et de la terre, tout ça, enfin un genre de truc. Voilà, et donc dans ce bouquin, l'auteur Jeffrey Herf, donc dans le bouquin qui s'intitule « Le modernisme réactionnaire », va essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi à l'intérieur de cette matrice complètement anti-lumière qui était le nazisme, la question de la technique va pouvoir s'intégrer et que comment est-ce que les nazis vont pouvoir faire l'apologie de la technique, la raison instrumentale en fait, alors même qu'ils rejettent tout le reste des Lumières. Et ça par exemple, ça peut s'illustrer, je dis ça par hasard, hein, chez Heidegger, qui justement, hein, c'est un exemple complètement pris au hasard, qui avant la défaite des nazis trouve que la technique c'est vachement bien. Il va louer la motorisation de la Wehrmacht comme un grand acte métaphysique. Il adore l'avion qui a transporté Hitler pour qu'il rencontre Mussolini. Enfin, vous voyez, des considérations d'une portée philosophique absolument fondamentalement, essentiellement, enfin transcendantale, quoi. Enfin, bon, un truc. Et juste après la guerre, par contre, il s'apercevra que la technique, c'est mal. Évidemment, parce que les nazis ont perdu. Et donc là, il s'aperçoit que la technique, c'est un truc de juif, et qui ça leur permet de dominer le monde.
Nazi !
Ouais, ça, oui, nazi, bah, c'est...
Donc, c'est... Nazi.
Voilà. Donc, et Heidegger aussi. Donc, vous voyez, le grand penseur allemand, là, enfin, celui-là, en tout cas, Heidegger, bah, il s'explique assez bien dans cette structure un petit peu de pensée, voilà. Donc, le modernisme réactionnaire de Jeffrey Herf, haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme.
Voilà, et puis le morceau qui illustrait ce brillant couplet de Michel, c'était les Astafor Mods, pas confondre avec les Slipher Mods, Astafor Mods avec le morceau Le Chiffre. Il y a tous les liens sur gurdulu.org, Jeudi Noir, et vous pourrez aller sur le bandcamp de ce groupe. Et je vous conseille d'aller voir le clip de ce morceau qui vaut son pesant de cacahuètes.
Thank you.
Bon, alors là, on coupe un petit peu les morceaux sur Jeudi Noir, sur Radio Libertaire 89.4, parce qu'on est un peu à la bourre. Il nous reste encore 3-4 bouquins à chroniquer, 3 bouquins. Donc là, je vais vous parler du livre de Johanna Russ, L'autre moitié de l'homme. Alors, le titre original n'est pas L'autre moitié de l'homme, mais c'est The Female Main, l'homme-femme, l'homme-femelle, ça dépend, parce que les deux acceptions sont possibles en anglais. Ou l'homme féminisé, on pourrait traduire, je ne sais pas exactement. C'est un peu compliqué. Donc, Johanna Russ, donc c'était. C'est. Non, elle est, je ne sais pas si elle est encore vivante, non. Oui, elle est encore vivante, il me semble. Écrivaine ricaine de SF, un peu dans la famille de Ursula Le Guin, dont vous parlait Petra tout à l'heure, ou de Samuel Delany également, dont je vous causais tantôt. Donc, ce bouquin-là, L'autre moitié de l'homme, ça parle d'une planète qui s'appelle Lointain. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment une planète, c'est la Terre. C'est peut-être la Terre, dans une autre dimension. Et c'est une planète Lointain où les hommes ont disparu. Voilà, victimes d'une épidémie. Donc, il ne reste que des femmes. Et des femmes qui se sont adaptées et qui font des bébés tout seuls, comme dirait Alain Souchon. C'est lui, je ne sais plus.
Jean-Jacques Goldman.
Non, Jean-Jacques Goldman, pardon. C'était l'autre. Voilà. Mais en mieux. Et ce qui est assez hallucinant dans ce livre, comme dans tous les romans de Johanna Russ, c'est souvent une écriture assez particulière où il y a un passage entre le présent et puis cette dimension parallèle. Donc ça part de. On est dans une sorte de soirée un peu pince-fesse, ricaine des années 60, avec plein de comportements hyper sexistes de la part de gros porcs, chefs d'entreprise, etc. Et de temps en temps, on se retrouve dans ce monde-là, donc un monde peuplé de femmes, avec plein de considérations assez intéressantes aussi sur le transgenderisme. Je ne sais pas comment on dit en français, transgenreisme. Voilà, enfin, c'est assez indescriptible comme la plupart des romans dont on vous a parlé aujourd'hui. Ça s'appelle L'autre moitié de l'homme par Johanna Russ.
Une chanson qui devrait s'appeler Républicain, mais RMP.
Ça fait mal de couper du reggae. C'était du reggae. L'UMP m'a pris mon bébé, mais pouvez trouver gratuitement déjà l'album entier, le live sur gurdulu.org, Jeudi Noir, il y a tous les liens. Voilà, donc super du reggae. Tout ça pour introduire un bouquin là de littérature ultra populaire, puisque ça date de 1977 et que c'est écrit par Vic Saint-Val. Donc Vic Saint-Val, c'est un des pseudos de Gilles Maurice, Gilles G. Maurice, donc écrivain archi prolifique d'espionnage, de SF, de tout ce qu'on veut. Et donc il a écrit pas mal de trucs vraiment à la, au kilomètre façon SAS. Et là, Vic Saint-Val, c'est le donc c'est un héros un petit peu à la SAS, James Bond à la française, quoi. Et alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin qui date de 77, c'est que c'est un des tout premiers bouquins de ce style-là à introduire le thème de l'homosexualité de manière politique. Donc, dans un petit bouquin comme ça, qui est vraiment de la, c'est ce qu'on appelle la littérature de guerre de manière un peu condescendante, voilà. Ça raconte une agence française qui est un peu une agence justicière dans le monde, qui se retrouve aux États-Unis parce qu'il y a eu un mariage homosexuel qui est célébré pour réclamer des droits, hein, puisque en 77 c'était pas du tout d'actualité. Et il y a un meurtre qui est là, et ils se rendent compte qu'il y a une grosse manipulation de la classe politique ricaine contre les homosexuels, qui en font des boucs émissaires. Et tout au long de ce bouquin-là, il y a plein de réflexions à la fois sur le genre, sur l'homosexualité, décrites de manière positive, même si ça n'évite pas beaucoup de clichés. Hein, il y a vraiment la folle, la tante, etc. qui sont là. Ça reste vraiment du bouquin français d'espionnage et compagnie. Mais au milieu de ça, on se retrouve avec plein de réflexions carrément pas du tout sexistes, pour ne pas dire le contraire, et puis carrément pas homophobes. Donc c'est assez étonnant, ça marque un peu un tournant dans l'histoire de cette littérature, enfin tournant non parce qu'il n'y a pas eu non plus de suite forcément, mais en tout cas une première dans l'histoire de la littérature prolétaire, on pourrait dire, populaire en tout cas, par rapport au thème de l'homosexualité. Et puis alors un dernier morceau de MC Foucault qui s'appelle Full Blown Nietzsche. Un Nietzsche complètement explosé, puisque Michel vous parlera de l'autre de son obsession, une autre de ses obsessions juste après.
Like JD, I'm the GOAT, Philly hashtag swagger, world's most accurately fact-checking rapper. This shit's a game to me, shoots and ladders, here's where the bangers be. Hey girl, you know I had her. My flow the Yangtze, I spit venom black adders. Opposite of Banksy or some bullshit, all lives matter. Fuck the president, that dude can't get any badder. Fix up that poppy tea, whip it up like batter.
Hey! Don't look away. Don't let it grow on you. It's not okay.
Engrave the following on my headstone. They died, getting headstone. Peeping tombstone, eating tombstone pizza. I've gone full blown Nietzsche. Said hello to the abyss, it was good to meet ya. Behind this mask, a terrifying creature. Who would gladly cook you up and eat ya? Any track I'm on, MC Foucault's the feature.
I'll enter the church soon, looking for some teens, man. Other rap words, flash memes, I'm so over them. Like me in the 80s, it's the way the world is over. I set fire on Dylon, I left the studio smoking. Since he's dire like Cylons, you should know it's your older friends. Mine's inspired with cryons, when I take them out no room. I'm entirely high in the spirit, taking time to hold them.
Hey!
Like battering acid, I'm so hella caustic. Such flattering acids with a tongue so toxic. I mean Saturn's ring, spinning a cosmic cross stitch. My staggering spit, it made God agnostic. I'm like battering acid, I'm so hella caustic. Such flattering acids with a tongue so toxic. I mean Saturn's ring, spinning a cosmic cross stitch. My staggering spit, it made God agnostic.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se termine sur une ultime obsession de votre serviteur, celui qui vous parle. Donc, je vais vous parler de No Means No. Non. De Jacques Bouvresse, un de nos invités réguliers, qui a écrit un livre il y a maintenant quelques temps, 2-3 ans, Nietzsche contre Foucault, sur la vérité, la connaissance et le pouvoir, où en fait Bouvresse va reprendre une des figures tutélaires du mouvement philosophique français des années 60-70, Nietzsche, et montrer que la lecture que peut faire en particulier Michel Foucault de Nietzsche est relativement biaisée, puisque Foucault ne s'intéresse qu'à un seul texte, enfin c'est exagéré de dire ça comme ça, mais il s'appuie essentiellement sur un texte de Nietzsche qui s'appelle « Mensonge et vérité au sens extramoral », c'est un texte de jeunesse. Or si on s'appuie, c'est un texte où Nietzsche semble dire qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des interprétations. Et le problème, c'est que bon, pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose interprété, mais bon, peu importe. Et donc, qu'il y ait quelque chose en dehors. Enfin, bon, bref. Mais. Et l'idée, c'est que. L'idée de Bouvresse, c'est que Nietzsche, en fait, est très régulièrement sur une position beaucoup plus classique sur la vérité, sur la notion de vérité, c'est-à-dire qu'il conçoit que, globalement, si on veut établir la vérité, c'est qu'il faut établir, malgré tout, quelque chose. Est-ce qu'on dit le réel ? Bon. Le problème étant chez Nietzsche que le réel se dissout constamment et que donc on peut pas le dire. Mais malgré tout, si on veut critiquer les discours constitués comme la science, ben il faut s'appuyer sur ce réel qui est justement qu'on ne peut pas dire puisqu'il devient sans cesse. Bref, l'idée ici étant que, si je résume, l'appui que peut faire, que peut sembler constituer Nietzsche pour quelqu'un comme Foucault s'effondre. Puisque Foucault va tomber dans une confusion que Nietzsche dénonce très fréquemment, qui est la confusion entre vérité et croyance. C'est-à-dire que Foucault ne cesse de dire qu'il fait l'histoire de la vérité. Si on était plus exact, on pourrait dire qu'il fait l'histoire des croyances passées. Sauf que ce serait vachement moins classe et beaucoup plus commun, finalement. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors c'est un livre qui est un peu technique, mais qui est intéressant, je trouve, et qui mérite d'être lu. En particulier sur ce concept de vérité qui fait couler beaucoup d'encre. Un peu partout, et en particulier aujourd'hui, puisque, à titre personnel, je me demande bien comment les postmodernes pourraient contester à Trump l'idée de faits alternatifs ou de fake news, étant donné leur vision des choses. Voilà, c'était la flèche du part. Ciao.
Bon, bah, dans 15 jours, alors peut-être une émission, on peut peut-être annoncer l'émission, il nous reste 30 secondes. Ça serait sur quoi la prochaine émission, normalement, si tout va bien ? La collapsologie, me semble-t-il.
C'est ça.
Voilà, donc un peu la science de la fin du monde. Donc rendez-vous sur gurdul.org jeudi noir avec toutes les références des bouquins, des musiques, etc. Entre chien et loup n'est pas encore arrivé, mais on espère, on croise les doigts. À plus tard.